14h sur les ondes de Radio Plus et soyez bienvenus pour la suite de notre émission spéciale Plus de Fraternité qui vous est proposée en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement du Pas-de-Calais dans le cadre de la 5e semaine départementale Faites la Fraternité. Cet après-midi, nous allons aborder deux thèmes, la responsabilisation des jeunes et la démocratie participative et citoyenne. Les jeunes ne sont pas responsables, voilà une phrase bien souvent entendue et parfois de la part d'employeurs qui ne font pas toujours confiance aux jeunes. Les initiatives et solutions semblent nombreuses, notamment pour accompagner les jeunes vers la première expérience professionnelle. Nous allons recevoir à l'occasion de cette première thématique de l'après-midi et bien plusieurs invités et notre grand témoin est Olivier Wallard de l'association Passeport Format. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes et bien chargé de relations entreprises au sein de l'association Passeport Format basée à Béthune. Nous vous avions reçu d'ailleurs il y a quelques mois de cela et vous nous aviez alors démontré à l'époque que les jeunes avaient bien souvent un potentiel qu'il fallait tout simplement réussir à sortir. Je pense qu'on peut résumer les choses comme ça.
Tout à fait ça, oui.
Alors d'autres solutions existent hein, bien sûr également pour sortir nos jeunes du chômage et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Le service civique, la garantie jeune et également pour une première forme de responsabilisation, l'investissement associatif. Alors nous allons aborder tous ces sujets avec nos invités et le premier sujet, Jean-Philippe, c'est la garantie jeune.
Tout à fait, en compagnie de Benoît Deck, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Radio Plus. Alors vous pouvez peut-être déjà nous rappeler un petit peu votre fonction.
Donc moi je suis directeur de la mission locale de l'agglomération de Lens-Liévin.
Voilà, et donc est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce qu'est cette garantie jeune ?
D'abord, la garantie jeune, c'est un engagement de l'Union européenne. Vous savez, quelquefois, on dit aux jeunes, l'Europe, c'est un peu loin d'eux, c'est ça, pas trop quoi, à quoi ça sert. Là, c'est un engagement fort de l'Union européenne pour l'emploi des jeunes, pour ne permettre qu'aucun jeune ne reste sur le bord du chemin. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement, effectivement, de jeunes, mais particulièrement les jeunes en difficulté. Alors, si je veux aller un peu plus loin dans la présentation de la garantie jeune, moi, j'aime bien cette métaphore qui est de dire, je vais d'abord commencer par dire ce que ça n'est pas. La garantie jeune, ce n'est pas le RSA jeune, mais ça y ressemble. Ce n'est pas le RSA jeune, parce que le RSA, habituellement, on donne de quoi subvenir à ses besoins à un certain nombre de personnes. Et puis, une fois qu'on a donné l'argent, on s'intéresse à quel va être leur projet, quelle va être leur insertion. Là, dans la garantie jeune, c'est l'inverse. On s'intéresse d'abord à l'insertion des jeunes, quel est leur projet, comment ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent se conduire, et puisqu'ils sont en difficulté, on va leur donner un certain nombre de moyens pour permettre de subvenir à leurs besoins, et notamment des moyens qui sont équivalents au montant du RSA.
Combien de jeunes sont concernés par ce dispositif sur notre territoire ?
Alors, on a été dans une phase expérimentale dans un premier temps. Hein, on a démarré dans le Pas-de-Calais il y a maintenant 2 ans, puisque en janvier 2015... Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant même, on faisait partie de ces territoires expérimentaux. Aujourd'hui, c'est généralisé dans toute la France. Ça existe partout en France. Pour vous donner un peu un exemple, sur les 2 premières années, donc 2015 et 2016, sur le Pas-de-Calais, c'est près de 5 000 jeunes qui en ont bénéficié sur l'ensemble du département. Et si je prends sur le territoire Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay, c'est environ 2 000 jeunes qui en ont bénéficié.
Est-ce que ce dispositif de garantie jeune fonctionne ? Est-ce qu'on a de vrais résultats ?
Alors oui, sans aucun souci. Alors d'abord, peut-être un peu dire qu'est-ce qui se passe pendant ce temps, avant d'arriver au résultat.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes ?
Il y a toute une période en fait d'immersion, voilà. De formation que je vous laisse détailler d'ailleurs.
Alors dans un premier temps, on racontera après quelles sont les conditions pour y rentrer aussi. On verra après parce que ça concerne pas tous les jeunes. Mais dans un premier temps, effectivement, qu'est-ce qu'on y fait ? Donc les jeunes arrivent, ils arrivent en général en groupe d'une 12 à 15 jeunes, et on va passer un temps en collectif, en général pendant, alors ça dépend des territoires, mais chez nous c'est 5 semaines en collectif intensif, pour les remettre dans une dynamique de recherche d'emploi. Alors, moi quand je les accueille, parce que j'essaye de les accueillir tous, je leur dis, à partir d'aujourd'hui, vous commencez un boulot. Et votre boulot, c'est rechercher du boulot. C'est le boulot de chercheur de boulot que vous... Okay. Vous n'êtes plus des demandeurs d'emploi, vous êtes des chercheurs de travail. Vous êtes des chercheurs d'emploi, c'est pas pareil. Et donc c'est un vrai travail à temps plein. parce qu'il faut s'adapter, il faut apprendre à mieux aller faire en sorte que, comme les jeunes nous disent, on envoie des CV, on envoie des photos, on contacte des entreprises et puis on n'a jamais de résultats. Alors, l'enjeu, c'est bien de leur faire passer dans ces 5 semaines, leur donner les outils, les méthodes pour que ce ne soit plus sans résultat, mais que ce soit qu'ils décrochent des entretiens et que les entretiens soient des entretiens positifs. Donc ça, c'est les 5 premières semaines. Et puis après, puisque ça, c'est un contrat, la garantie jeune, c'est un contrat d'un an, après les 5 semaines, on va faire un accompagnement intensif, c'est-à-dire que les jeunes vont être vus toutes les semaines. Toutes les semaines, pendant un an, le jeune sera, il aura des objectifs, il aura un certain nombre de choses à faire par rapport à sa recherche d'emploi. Et l'idée, c'est que dès la 6e semaine, après les 5 semaines de collectif, ils soient tous en entreprise. Alors tous en entreprise, ça peut être des CDD, ça peut être de l'intérim, ça peut être un contrat déjà long, hein, mais ou tout simplement un stage. Alors quand je dis ça aux jeunes, ils me disent « Oh, allez, encore un stage, on va encore me proposer un stage ». Oui, mais je leur dis « L'enjeu, c'est pas de faire un stage ». L'enjeu, c'est de faire un stage qui va vous apporter quelque chose dans votre parcours professionnel. C'est un stage qui va véritablement vous permettre soit, de si vous ne savez pas trop quel métier vous voulez faire, de dire « je vais faire un stage, 2 stages, 3 stages dans 3 métiers différents, puis je vais choisir », soit parce que j'ai choisi mon métier, mais il faut que je vais peut-être essayer deux, trois entreprises du même secteur pour avoir de quoi mettre dans mon CV. Parce que pour qu'un autre recruteur me trouve intéressant, il faut que j'ai de l'expérience. Parce que c'est ce que demandent tous les employeurs. Et l'expérience, je vais l'acquérir par ces petits stages et je vais faire en sorte que ces stages soient des stages positifs. Et donc, pendant l'année qui va suivre après les 5 semaines, on va essayer de faire passer les jeunes le maximum de temps en entreprise. Et je peux vous dire qu'on a d'abord tous les jeunes qui ne passent par la garantie jeunes passent en entreprise, tous, sans exception, que l'on a à peu près la quasi-totalité des jeunes qui passent en général plus de 3 mois en entreprise, déjà, et on en a, en tous les cas, 50% qui débouchent sur de l'emploi durable.
Qu'est-ce qui fait, dans ces 5 semaines d'immersion, de préparation que vous avez mentionnées, que ça débouche sur des entretiens, sur des choses comme ça, puisque vous me disiez juste avant, les jeunes envoient des CV, envoient des lettres de motivation, ça n'aboutit à rien. Là, il suffit de 5 semaines de travail pour que finalement ça ait des résultats. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là ?
Pendant cette période-là, on essaie de faire des choses un peu différentes de ce qui se fait d'habitude. Parce que des techniques de recherche d'emploi, les jeunes en ont déjà fait plein. On essaie de faire des choses un peu différentes. Je vais prendre 2 exemples. Et souvent qu'on leur dit quand on démarre la garantie jeune. Je dis aux jeunes, bon, quand j'arrive dans la salle pour venir les rencontrer, je leur dis bonjour, je leur serre la main. Puis une fois que je leur ai tous serré la main, je leur dis, déjà il y a la moitié d'entre vous dehors, c'est fini, si je suis un employeur, c'est fini. Ils me regardent avec de drôles de yeux. Et puis je leur dis, écoutez, il y en a certains, ils m'ont serré la main, j'ai à peine senti qu'ils me serraient la main. D'autres, ils me serraient la main sans même me regarder. D'autres, ils me serraient la main en faisant une tête d'enterrement. Ça va pas. On crée un mauvais contact avec l'employeur.
Si demain, donc il y a déjà la posture.
La posture, quoi. Parce que ce qu'on nous disent les employeurs, c'est que bien souvent, c'est le savoir-être, c'est la façon de se présenter, c'est la façon d'être des jeunes. Et malheureusement, ce sont des choses qu'on n'a pas appris aux jeunes, qu'on ne leur a pas appris tout au long de leur vie. Donc il faut travailler sur toutes ces questions-là, la posture. Mais il faut le faire par des choses, on ne va pas le faire de façon théorique. On va leur dire, on va faire un cours, il faut bien se tenir. Ouais, non, ça va bien. Ouais. Si j'ai échoué à l'école, c'est parce que on m'a dit peut-être ça, mais je n'ai pas écouté. Tandis que si on leur dit, là, on fait des exemples, on fait de la simulation, on fait des choses au quotidien, au concret. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple que je leur dis... Vous avez fait votre CV tous, disons en général oui, et vous avez dit comment vous faites après ? Vous faites des photocopies, vous faites vos lettres de motivation, vous les envoyez à vos entreprises, vous allez les déposer, et puis vous n'avez pas de résultat. Je leur dis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je leur dis, pour chaque entreprise, il faut faire un CV et une lettre de motivation adaptée. Il faut aller chercher les renseignements sur l'entreprise, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'elle attend, etc. Et je vais adapter mon CV et ma lettre de motivation à chaque entreprise. Et puis, ça veut dire, concrètement, ça va être un vrai boulot. Quand je leur dis que vous avez un boulot qui est chercheur de travail, se renseigner sur toutes les entreprises auxquelles on va postuler, c'est un vrai boulot. Et ça, il faut leur apprendre. Mais ils me disent, ouais, mais c'est bien, vous êtes gentil, monsieur. Mais moi, je suis jeune, j'ai pas d'expérience. Eux.
Oui.
Ils me disent, moi, je suis jeune, j'ai pas d'expérience, j'ai pas forcément beaucoup de formation, j'ai pas grand-chose à mettre dans mon CV. Et c'est là qu'il faut intervenir véritablement le travail que l'on fait. C'est qu'il faut savoir mettre en valeur chacun des jeunes, quelles sont les compétences qu'il a dans son histoire, dans sa jeunesse, dans sa famille, dans ses relations, dans ce qu'il a fait, dans la vie, etc. Il a des compétences à mettre en valeur. Et savoir comment je mets ces compétences en valeur pour pouvoir intéresser un employeur, pour que dans la pile de 150 CV que l'employeur il reçoit, je ne sois pas en bas de la pile des 150, mais que je sois au-dessus de la pile.
Alors, on a bien compris que le dispositif apparemment fonctionnait bien. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que cette formule particulièrement fonctionne ? Auprès des entreprises, surtout.
Alors, une autre chose qu'on en rajoute, et qui marche bien auprès des entreprises, c'est parce qu'on a des entreprises qui sont partenaires. Et je crois que ça, c'est important. Je vous ai dit que les jeunes, ils rentraient par groupe, ou par promotion, comme on dit. Je crois qu'on en est aujourd'hui sur la mission locale de Lens les Vins, on approche la 100e promotion, oui, un petit peu. Et toutes ces promotions de jeunes, chaque promotion de jeunes chez nous est parrainée par un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise qui passe du temps bénévole à nos côtés pour ces jeunes-là, pour ce petit groupe de 12 à 15 jeunes qu'il a en face de lui. Et ça marche. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous aller travailler dans l'entreprise de leur parrain. Mais ça veut dire que le parrain, il va les mettre en relation, il va leur montrer, il va leur donner des codes, il va avec nous donner les codes de l'entreprise. Et ça marche. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, rien que sur la mission locale de Lens les Vins, mais mes collègues d'Hénin Carvin et mes collègues de Béthune font pareil, on a aujourd'hui plus de 50 entreprises, chefs d'entreprise, qui sont parrains dans le cadre du dispositif Garantion. Et ça marche.
J'ai envie de vous demander pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt.
Alors ça... Je ne vais pas vous mentir, j'aurais bien aimé que ça existe plus tôt. Mais c'est normal, on s'améliore. Il faut toujours s'améliorer, il faut toujours innover, il faut toujours faire des choses importantes. Mais attention, on a une chose qu'on n'a pas dite. C'est que la garantie jeune ne s'adresse pas à tous les jeunes. Ça, on pourrait croire que c'est le miracle, tous les jeunes vont y avoir le droit, etc. Il y a des conditions. Parce que,
oui, c'est bien de les rappeler, effectivement.
C'est bien de les rappeler. Et donc, ces conditions, c'est... C'est d'abord le public cible, c'est d'abord les jeunes en grande difficulté. C'est les jeunes, ça, c'est pas une question de niveau. Il peut y avoir tous les niveaux, ça peut être des jeunes qui n'ont aucune formation, on a même eu des jeunes qui ont un BTS ou même plus. On a même eu des licences, des masters qui sont rentrés dans la garantie jeune. Mais ce sont des jeunes qui, malheureusement, n'ont pas eu de chance dans leur vie. Ils ont eu des accidents de la vie, ils sont abandonnés par leurs parents, ils ont perdu leurs parents, il y a eu des histoires, enfin, etc. Tout ça. Des jeunes qui se trouvent sans aucune ressource, qui ne reçoivent plus le soutien de leurs parents. Et une chose que je peux témoigner, moi je suis directeur de la mission locale de Lens les Vins, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis directeur de la mission locale, et ça fait bon, je vais arrêter de dire ça, faire le vieux, je pense que ces dernières années, la situation sociale des jeunes s'aggrave. Et elle s'aggrave fortement. Je pourrais expliquer si ça vous intéresse un petit peu après. Elle s'aggrave forcément. On voit de plus en plus de jeunes qui sont mis à la porte par leurs parents. On voit de plus en plus de jeunes qui, vu la situation sanitaire dans notre territoire aussi, ont un parent qui n'est plus là, ont un parent qui ne le soutient plus, etc. On a une espèce de défiance dans la société. Et si bien que je peux vous dire que quand on regarde un petit peu, quand on creuse, parce qu'on va jusque les regarder les ressources, etc., et tout ça, c'est catastrophique. Et ça s'aggrave. Les jeunes qui ont des difficultés de logement, qui sont à la rue, ils sont pas à la rue, ils sont pas SDF comme on l'entend généralement.
Il y en a quand même,
mais c'est pas ça l'essentiel. Mmh. L'essentiel, c'est des jeunes qui dorment deux jours chez un copain, deux jours chez un autre copain, parce qu'ils ne veulent pas dormir à la rue. Ils sont là. Cela, on les voit pas. Ça se voit pas. Mais ils sont en grande difficulté. Rien que sur l'agglomération de Lens les Vins, on estime qu'il y en a 2000 qui sont en grande difficulté de logement comme ça. 2000. Vous imaginez? On n'avait pas ça il y a 10 ans.
Olivier Wallard de Passeport Format, vous partagez ce constat, la situation des jeunes s'aggrave ?
Ah, tout à fait, je me délectais entre guillemets d'écouter monsieur le directeur de la mission locale du secteur de Lens. En ce qui me concerne au niveau de Passeport Format, pour rappeler un petit peu les termes de notre dispositif, nous sommes donc présents sur Béthune depuis 1988 au niveau de Passeport Format, avec bien précisément deux objectifs précis. Un, nous avons bien évidemment en fait la partie formation, parce que nous sommes donc centre de formation agréé en sérigraphie et signalétique au niveau de notre centre de Nolémine. donc tout ce qui est communication graphique d'une manière générale, centre de formation agréé à Nolémine, et plus précisément ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes donc centre d'accompagnement, je dirais, depuis 1988 sur le bassin de Béthune et agglomération. Bien évidemment, je me délectais, entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, d'écouter le discours de monsieur le directeur, parce qu'en effet, nous avons le même constat, le même échec, en même temps, par rapport à nos jeunes, pour lesquels nous sommes là pour essayer d'avancer, de faire, comme je dirais familièrement, avancer le schmilblick. En ce qui nous concerne, on parlait tout à l'heure de l'Europe à mauvais escient, dans le sens où on critique facilement l'Europe en disant c'est pas bien. Là, au contraire, la mission locale, le reprécisait également juste avant, la mission locale, tout comme nous au niveau de passeport format, nous sommes également mandatés, je dirais financés, pour être très clair, par l'Europe, par l'État, par la région, pour accompagner le jeune pour une montée en compétences. Au niveau de Béthune, en fait, nous avons donc dans le dispositif IOJ, donc Initiative Emploi des Jeunes, pour faire en sorte de faire bouger le jeune. Nos publics cibles sont donc les décrocheurs, j'aime pas ce terme, mais dans notre jargon, c'est le terme employé, les décrocheurs jeunes de 16 ans à 26 ans, pour les accompagner. On parle de sensibilisation, on parle d'accompagnement. Le but premier, c'est avant tout de faire en sorte que le jeune repasse et refasse confiance en lui. Donc le but de notre dispositif, c'est, comme la mission locale, d'accompagner nos jeunes pour le faire bouger, le faire avancer, le faire grandir. Nos dispositifs au niveau de l'IEJ, c'est vraiment l'accompagnement renforcé. Nous sommes, nous, au niveau de passeport format, une petite équipe. Nous sommes une équipe de 20 collaborateurs. Depuis, comme moi-même, le conseiller en insertion professionnelle, chargé de relations entreprises, en passant par les psychologues du travail, en passant également par l'équipe technique, également l'équipe administrative. Le but, c'est de faire en sorte que nos jeunes reprennent confiance en eux. Parce que je pense qu'avant tout, les jeunes, comme disait monsieur le directeur, viennent chez nous, ou à la mission locale en même temps, nous sommes partenaires, nous sommes les mêmes publics, nous avons les mêmes cibles, les jeunes se sentent un petit peu écœurés, délaissés, découragés. Le but avant tout, c'est de lui faire confiance. Nous, avec le jeune, on est ensemble toutes les semaines. Comme je dis toujours, si on voit un jeune aujourd'hui, on le revoit dans 6 mois, aucun intérêt. Le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait une dynamique pour lui faire reprendre conscience que ensemble, on va pouvoir avancer. Comme je dis toujours en plaisantant, avec passeport, vous êtes plus fort, mais le but, c'est d'être ensemble, en binôme, pour travailler un projet. On le disait tout à l'heure, il est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même de bien grands freins pour nos jeunes. Il est clair que l'objectif final, c'est l'insertion au sens noble du terme, professionnelle. Mais avant tout, nous, on s'attache, nous, au niveau de passeport format, avec également les collègues de la mission locale, à travailler le social. Parce qu'il est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, si le jeune n'a pas à manger, n'a pas à boire, n'a pas de toit, le boulot, à juste titre, il s'en fout à l'heure d'aujourd'hui. Donc nous, on s'est attelé à faire en sorte de fédérer les acteurs locaux en termes d'institutions. Là, je pense au territoire de Béthune, nous travaillons particulièrement avec le SIAO, le CHRS, le CCS, le conseil départemental, pour faire en sorte qu'on puisse consolider un parcours. Donc à ça, on s'est attelé avec la CPAM également, la CAF, à travailler des projets, à travailler à faire en sorte que, une fois que le jeune ait un toit à manger, à boire, on s'attelle au volet professionnel. Le jeune, on le prend dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on part de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, peut-être pas grand-chose, peut-être un petit peu, peut-être pas du tout. On prend le jeune à sa globalité, personnaliser l'entretien et à travailler un projet professionnel depuis les techniques de recherche d'emploi. On parle pas de savoir-faire parce qu'il ne sait pas faire, il est jeune, il a pas de qualification ou il a pas de diplôme. On parle avant tout, comme disait M. Deck tout à l'heure, de savoir-être. Parce qu'en effet, on parle de sensibilisation, il y a des règles en entreprise.
Alors, juste avant que monsieur Deck justement s'en aille, puisque je sais qu'il est très pris par le temps, j'avais une question encore à lui poser. Au niveau de la responsabilisation de ces jeunes, est-ce que la garantie jeune porte, a ses effets justement sur cette forme de responsabilisation?
Alors, quand les jeunes rentrent dans la garantie jeune, et puis tout au long de leur parcours, il y a une chose qu'on n'arrête pas de leur dire, c'est que on n'est pas là pour leur distribuer de l'emploi. L'emploi, c'est eux qui le trouvent, c'est eux qui vont le chercher, c'est eux qui font les démarches. Nous, on est là pour les aider à les faire. On n'est pas là pour leur donner. Je leur dis toujours, moi, j'ai beau fouiller dans mes poches, l'argent, si j'en ai un petit peu, heureusement, mais l'emploi, j'en ai pas dans mes poches. Et ça tombe pas tout cuit du ciel. Si le jeune, il reste chez lui, si le jeune, il attend, parce que ça, c'est une des maladies graves qu'on a aujourd'hui par rapport à un certain nombre de jeunes qui sont pas des shootés de drogue, sont pas, enfin, il y en a aussi, hein, mais des shootés d'alcool, sont des shootés de télé, sont des shootés ou d'écran, de smartphone, etc., tout ça, et qui ne passent leur journée là-dessus. Mais ce jeune qui ne se met pas en mouvement, qui ne se met pas en dynamique, on ne pourra rien faire pour lui. Donc le premier... Je vais prendre aussi un exemple pour illustrer un petit peu ça. Une des questions centrales aussi pour les jeunes, c'est le permis de conduire. Parce que le jeune qui n'a pas de permis de conduire, trouver du boulot, c'est compliqué. Et puis je leur dis, bah écoutez, on va se fixer un objectif avec vous. Dans les 3 premiers mois que vous allez être là, vous allez passer votre permis. Ouais, monsieur, 3 mois, c'est trop compliqué, ça ne va pas marcher, etc. C'est pas possible. Je leur dis, ouais, d'accord. Je comprends que ce ne soit pas possible. Parce que qu'est-ce que vous faites ? Et puis il y en a toujours un ou deux qui ont déjà commencé le code ou qui ont déjà leur permis de conduire. Puis je leur dis, mais comment vous y êtes pris ? Vous allez à l'auto-école faire des cours ? Ouais, j'y vais une fois, deux fois par semaine faire des cours. Je leur dis, hey, c'est fini ça. Si on a envie de se responsabiliser, si on a envie d'aller de l'avant, c'est vrai que vous allez être à temps plein au boulot.
Permanence.
Et le soir, quand vous aurez fini, ben vous aurez plus envie d'aller retrouver le petit copain ou la petite copine. Ben je leur dis, hey, le petit copain et la petite copine, il va attendre une heure de plus, et puis tous les jours, vous allez faire une heure de code. Vous en avez envie, vous le faites. Vous vous donnez à fond. Vous êtes dans une démarche positive et ça va marcher. Vous n'en avez pas envie, ça ne marchera pas. Effectivement, vous allez mettre un an pour passer votre permis de conduire. Parce que c'est vrai que les jeunes, souvent, ils mettent un an pour le permis de conduire. Mais quand ils se donnent à fond, quand ils ont envie, quand ils se responsabilisent eux-mêmes, ça marche.
Tout à fait, pour abonder en fait dans le sens également de monsieur le directeur. En effet, moi j'ai toujours dans mon expression, quand je suis avec mon jeune, sinon on les reçoit également, et en collectif, en individuel, je ne suis moi à mon petit niveau qu'un copilote. J'ouvre la voie, je suis avec lui, je lui ouvre la voie pour lui donner, le mettre en relation, faire en sorte que grâce à nos acteurs, à fédérer avec nos partenaires, on peut leur permettre de faire des choses, mais c'est eux qui vont conduire la voiture, en effet. C'est tout à fait ça. Et par rapport à ça, en effet, moi je dis toujours, chercher un boulot, chercher une formation, c'est, comme on dit tout à l'heure, un boulot à part entière.
Benoît Deck, merci beaucoup d'être intervenu sur notre antenne pour parler de la garantie.
Ouais. Alors on va continuer bien sûr nous à évoquer la responsabilisation des jeunes avec notre grand témoin Olivier Wallard. On a parlé tout à l'heure et pour reprendre les propos de Benoît Deck, et bien effectivement l'emploi ne sort pas des poches et on avait eu l'occasion de nous ensemble Olivier Wallard et moi-même d'avoir une petite interview où à l'époque vous me disiez effectivement que finalement il y avait tout de même de l'emploi pour ces jeunes. Alors si on met en parallèle ce que vous nous aviez dit à l'époque, ce que vient de nous dire Benoît Deck maintenant, et également les nouveaux enjeux qui approchent. C'est le cas de la robotisation des métiers, de la diminution souhaitée par certains candidats à l'élection présidentielle du temps de travail. Est-ce que la jeunesse a encore un avenir professionnel ou alors doit-elle réinventer ses métiers ?
Alors, réinventer les métiers, bien sûr que oui, on est en perpétuelle évolution par rapport à ça, on parle de la domotique, on parle de tout ce qui est technique actuelle, et tout ce qui est industrialisation, bien évidemment, sont des métiers porteurs et à venir. Par contre, n'oublions pas quand même qu'il reste toujours des métiers porteurs de base, au sens positif du terme, l'aide à la personne, les métiers également liés à tout ce qui est les préparateurs de commandes, les gestions de stock et autres, il reste des métiers porteurs pour lesquels un jeune peut prétendre à ce poste-là. Des nouveaux métiers qui vont se mettre en place au niveau de l'informatique, technicien également, mais il y a des métiers permanents qui sont porteurs actuellement, pour lesquels le jeune peut se former, si tant est qu'il veuille y accéder.
Et est-ce que, par exemple, dans la même logique, l'abaissement de l'âge du droit de vote à 16 ans, évoqué là aussi par certains candidats présidentiels, est-ce que c'est une bonne chose pour responsabiliser le jeune ?
Alors oui et non, je dirais chaque cas et chaque jeune est différent. Et il y a des jeunes de 25 ans qui ne sont pas mûrs du tout et donc pour lesquels ils seraient pas mûrs non plus dans le même esprit pour voter. Et un autre jeune de 16 ans qui pourrait être très bien la même, après certains vécus ou autres, de prendre conscience de l'environnement sociaux, géographique et autres, pour pouvoir être à même de pouvoir voter. Je pense que malheureusement c'est un constat global, hein, pour lequel on peut pas faire d'exception, donc 16 ans ou pas, mais je pense qu'on devrait à la marge beaucoup plus voter en fonction d'une personne et d'un statut et d'une maturité éventuelle.
Et du coup, très rapidement, pour rebondir sur ce que venez de nous dire, et j'insiste sur le rapide parce que le temps malheureusement nous est compté, quand on parle de responsabiliser les jeunes, qui est la thématique que nous abordons en ce début d'après-midi, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la caricature ? Est-ce qu'il faut impérativement responsabiliser le jeune parce que le jeune n'est pas responsable et qu'on ne peut absolument pas lui faire confiance ?
Alors moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ce propos. Quand on dit que le jeune n'est pas responsable, il est quand même responsable de sa vie, de son avenir, de son futur. Notre but, nous, en tant que plus vieux, plus adultes, c'est quand même de leur faire prendre conscience de cela. Moi, dans mon domaine, c'est plus la responsabilisation, en fait, au niveau professionnel, mais liée également à l'homme, à la personne qui va devenir demain un père de famille, une femme de famille, et un papa ou une maman. Donc, quand on parle de responsabilisation, je suis là, nous sommes là, adultes, pour leur faire prendre conscience que l'avenir, c'est eux, la France de demain, c'est eux, notre jeunesse, et que c'est à elles à se construire avec nous, et à nous, encore une fois, dans mon propos initial, de les faire donner, de leur donner envie, de leur faire en sorte qu'ils se refassent confiance pour qu'ils puissent bouger et avancer, en effet.
Nous vous proposons à présent d'évoquer une autre alternative pour faciliter l'emploi des jeunes. Il s'agit du service civique, Julien.
Tout à fait, Jean-Philippe, et nous avons interviewé ce matin plusieurs personnes concernées par le service civique au sein de la ville de Salomine et particulièrement de son CCAS. J'ai reçu notamment Alice Arnaud et Aurélien Waterloo qui sont service civique au sein de ce CCAS de Salomine, et l'une de leurs missions notamment est d'accompagner les personnes âgées bénéficiaires du CCAS. On les entendra dans un instant. Vous entendrez également Olivier Aubert, directeur du pôle autonomie et coordinateur des services civiques au sein de la ville de Salomine, ainsi que Franciane Canlers qui est bénéficiaire justement de ces visites de courtoisie. Mais pour démarrer, je vous propose cette interview d'Alice Arnaud et Aurélien Waterloo qui nous évoquent notamment leur parcours. À votre service civique, quel est votre parcours scolaire ?
Bonjour, donc j'étais en CAP e-commerce, je l'ai effectué. J'ai été en bac, jusqu'au bac, et j'ai arrêté. Ça me plaisait plus, le commerce. Je voulais faire dans le social, donc j'ai arrêté les études. Donc j'ai arrêté les études, j'ai travaillé entre deux, et j'ai postulé pour le service civique pour être avec les personnes âgées et les personnes en difficulté.
Donc moi j'ai commencé un bac pro en système électronique et numérique. Et j'étais jusqu'au niveau BEP et j'ai un peu foiré mes études avec mes mauvaises fréquentations, tout ça quoi. Donc de là j'ai arrêté l'école, j'ai commencé à travailler en intérim directement. J'ai travaillé un petit peu à l'usine, tout ça, et depuis le mois d'octobre maintenant je suis au service civique.
Comment est-ce que vous avez eu connaissance du service civique ?
J'ai des amis qui l'ont fait et je les voyais souvent sur le marché, tout ça quoi, avec les personnes âgées. Et voilà quoi, ça m'a donné envie d'essayer quoi.
J'ai entendu parler et des connaissances pareil, et je les voyais dans la rue avec les personnes âgées.
Vous êtes tous les deux donc en service civique au CCAS de Salomine. Pourquoi avoir choisi cette structure ?
Pour accompagner les personnes âgées et pour faire voir que on peut être jeune mais on peut s'occuper des personnes âgées.
Et moi c'était surtout pour me faire une petite expérience déjà, et puis apprendre à aller vers les personnes de tout âge quoi, pas qu'avec les jeunes. Et puis voilà quoi, ça nous a apporté pas mal de trucs quand même.
Travailler avec les personnes âgées, c'était une motivation supplémentaire pour l'un et l'autre, ou pas particulièrement ?
Pas particulièrement. On travaille avec les personnes âgées, mais aussi avec les personnes en handicap.
Moi aussi, parce que je vais partir dans ça. Donc si ça, puis de toute façon, on n'est pas toujours avec les personnes âgées. On est avec des petits. On est entouré de jeunes et de personnes âgées en difficulté.
Que vous apporte cette expérience et où est-ce que vous en êtes justement dans votre service civique ? Combien de temps est-ce qu'il vous reste de contrat concrètement ?
Il nous reste 2 mois, donc on finit en mai, fin mai. Moi, le service civique, il m'a apporté beaucoup de choses. Grâce à eux, j'ai effectué un stage à l'hôpital de Lens en neurologie vasculaire qui s'est très bien passé. Et là, à partir du 3 avril, je pars en stage en auxiliaire de vie. Donc moi, je pars vraiment dans le social. Et grâce à eux, j'ai envie de dire merci, parce que on a beau faire plusieurs choses pour faire des stages découvertes, il y a toujours un frein. Et avec le service civique, on n'a jamais eu de frein, quoi. Ils ont toujours voulu qu'on réussisse dans l'ensemble.
Donc pour vous, ça a été un tremplin aussi pour découvrir ce qui sera peut-être votre futur métier, en fait.
Oui, voilà.
Vous parlez de freins que vous avez pu connaître peut-être également par le passé dans votre recherche d'emploi ou de stage. Quels sont les freins que vous avez rencontrés ?
Que c'était pas possible parce que j'avais pas d'expérience, et que c'était pas facile de trouver un stage quand on n'a pas de diplôme qui sont pas
en rapport avec ce que vous souhaitez faire.
Oui, voilà.
Aurélien, vous les avez rencontrés aussi, vous, ces freins dans votre recherche de stage, dans votre recherche de formation, dans votre recherche d'emploi ?
Oui, exactement la même chose. Souvent, c'était par manque d'expérience ou après, il y a eu le moyen de locomotion aussi, pas de permis, donc pas de boulot, quoi. Et ouais, c'est... En gros, c'était que ça, quoi.
Et qu'est-ce que vous a apporté ce service civique au sein du CCAS de Salomine?
Ben, une meilleure entente avec toutes les personnes que j'ai autour de moi déjà. Après, ben, je suis attiré à plus aller vers les personnes, à plus aller parler aux gens, alors qu'avant, je préférais attendre que la personne vienne me parler, j'étais un peu plus réservé. Et puis, ben, ça m'a fait quand même une belle expérience, quoi.
Quels sont vos projets professionnels à tous les deux à venir? Parce que vous arrivez en fin de service civique, vous allez faire d'autres choses. Alice, on en a plus ou moins parlé. Vous, Aurélien, vos projets pour le futur, c'est quoi?
Ben, moi, je souhaiterais ouvrir une entreprise avec mon père dans la cigarette électronique. Donc, pour l'instant, je suis en création de projet, quoi. Mm-hmm. Et puis, ben, voilà, quoi. J'espère que ça se fera assez vite.
Alice, rappelez-nous vos projets rapidement.
Donc moi, je vais, ben, après le service civique, je vais postuler pour auxiliaire de vie à domicile et par la suite passer le concours aide-soignante. Pour être là pour les personnes âgées, pour moi, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire.
Eh bien, merci à tous les deux, Alice, Arnaud et Aurélien Waterloo. Je rappelle que vous êtes service civique au sein du CCAS de Salomine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Depuis combien de temps la ville de Salomine accueille-t-elle des services civiques?
Alors, on accueille des jeunes volontaires en service civique depuis juin 2015.
Et pourquoi justement avoir voulu intégrer des services civiques au sein notamment du CCAS?
Ça fait 9 ans que je travaille avec des volontaires de services civiques dans le cadre de mes activités auprès des personnes âgées. Et nous avions fait le constat que très peu de jeunes salominois intégraient le service civique avec lequel on participait par le biais d'une association. Donc bon, on en avait fait ce constat et on trouvait quand même étrange que si peu de Salominois soient motivés par ce genre d'engagement. Donc on a prospecté un peu et on s'est aperçu qu'en fait il y avait énormément de jeunes qui avaient cette envie de s'engager, qui avaient envie de travailler en parallèle leur avenir, hein, parce que ben, voilà, l'éducation nationale n'avait pas forcément répondu à leurs besoins. Et puis donc on a décidé de demander notre propre agrément. Et depuis 2015, on a déjà accueilli 42 jeunes, et là on est déjà sur 2 futures sessions complètement remplies, donc un prochain recrutement avec 6 jeunes le 27 mars et un autre au 1er juin.
Alors vous parliez de ces jeunes salominois qui n'osaient pas s'engager au travers de l'association partenaire. Pourquoi ce constat?
Peut-être pour certains par méconnaissance, pour d'autres ça paraît le fait de changer de ville, c'est parfois insurmontable pour certaines personnes. Enfin, voilà, certains sociologues l'expliqueront certainement mieux que moi. Et puis aussi par le fait que certains jeunes postulaient, mais certains avaient un handicap qui était un peu rebutant apparemment pour cette association. D'autres un niveau d'études trop faible, d'autres un parcours parfois avec la justice qui faisait que on n'avait peut-être pas envie d'eux, quoi.
Quelles sont les missions du service civique qui intègre le CCAS de Salomine?
Alors on lutte exclusivement contre, sur l'isolement. Donc on a une mission de solidarité auprès des personnes âgées qui vivent encore en domicile et qui se sentent seules, qui sont seules. On intervient par le biais de visites de courtoisie, de convivialité. On intervient également dans les jardins parfois, ce qui permet aux personnes de rester chez elles et d'avoir un jardin malgré tout entretenu hein, par rapport à leurs problèmes de santé et qu'ils ne pouvaient plus l'entretenir. On intervient aussi au niveau de l'inclusion des jeunes enfants porteurs d'handicap. On accompagne ces jeunes vers les structures municipales qui font de l'accueil de loisirs, vers les établissements de culturels par exemple, vers les clubs sportifs. Et puis ensuite on intervient sur toutes les activités qui ont un lien avec la solidarité, le Téléthon, les grandes manifestations comme Salomine en fait.
Alors très rapidement, Olivier Aubert, on sait que les conditions de travail des services civiques diffèrent selon l'agrément, que ce soit en termes de durée de mission, en termes de durée hebdomadaire de travail. À Salomine, un jeune qui est recruté en service civique s'engage pour combien de temps et à raison de combien de temps de travail par semaine ?
Alors, les jeunes s'engagent sur 8 mois et signent un contrat de 35 heures par semaine, ce qui est la durée aujourd'hui légale du travail, sauf que... en fait, on part pas sur, enfin, on force pas à faire 35 heures. Généralement, un jeune sur Salomine fait 24 heures formation et accompagnement professionnel inclus.
Et si l'on souhaite justement être service civique au sein de la ville de Salomine, est-ce qu'il y a une procédure particulière à suivre ?
Alors oui, on peut tout à fait postuler par le biais du site de l'Agence nationale du service civique ou rencontrer le maire à ses permanences pour motiver sa volonté à intégrer ou tout simplement déposer un CV avec une lettre de motivation en mairie de Salomine.
Olivier Aubert, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle autonomie et coordinateur des services civiques au sein de la ville de Salomine.
Merci.
Et à présent, un exemple concret du rôle des services civiques au sein de la ville de Salomine. Je vous propose le témoignage de Franciane Canlers, qui est une personne âgée, on la présentera comme ça, qui réside à Salomine. Et Franciane, vous bénéficiez justement des visites des services civiques de la ville de Salomine, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Alors, comment se passent ces visites ? Dites-nous tout.
Bon, déjà, je dois dire que les petits jeunes apportent beaucoup de chaleur humaine dans un monde où, malheureusement, c'est chacun pour soi. Et je dois dire qu'au début, j'étais pas trop enthousiaste pour les visites. Mais au fil du temps, au fil de leur venue, ben, j'en arrive à attendre impatiemment leur venue.
Alors, ces visites, elles se déroulent à quel rythme ?
Chaque lundi, pendant 1h30. Alors, on fait des jeux de société. Et il faut dire que le temps passe très vite. En général, nous jouons Scrabble, ce qui enrichit le vocabulaire, entre autres. Et puis voilà, ça se passe très bien. Et ultérieurement, ils aident également pour le jardin. Je dois dire que j'avais eu des plaintes auprès de Maison et Cité pour mon terrain. Il faut dire aussi qu'il ressemblait à la forêt vierge.
Oui, par manque d'entretien, du coup.
Voilà, alors ils sont venus pendant l'été, en pleine chaleur, débroussaillés, ils ont eu beaucoup de courage et j'avais même pitié d'eux en les voyant transpirer dans le jardin. C'était impeccable. Ils sont tous très gentils, très serviables.
Alors vous nous disiez il y a quelques minutes qu'au début vous n'étiez pas forcément très partante pour accueillir ces jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Disons que j'ai l'habitude d'être seule toute la semaine et puis bon, bah, quelqu'un que je ne connais pas, je ne suis pas... très chaude, voilà. Je ne sais pas très bien m'exprimer, mais c'est vrai que c'est formidable.
Alors, ces visites chaque lundi, est-ce que ce sont toujours les mêmes jeunes qui viennent ou est-ce que justement ça varie selon les semaines ?
Non, ça varie, ce ne sont pas toujours les mêmes, et ce qui est bien, parce qu'on ne voit pas toujours les mêmes personnes. Et ils n'ont pas toujours la même approche, et c'est bien. Mais ils sont tous très sympathiques et serviables et voilà, c'est
donc,
magnifique.
Visite pour vous apporter un petit peu de chaleur humaine, visite également pour entretenir votre jardin quand le besoin s'en fait sentir. Est-ce que ces jeunes interviennent dans d'autres domaines, notamment ben, quand c'est les périodes hivernales où on est un petit peu isolé, y compris aussi pendant les périodes estivales parfois de canicule, est-ce qu'ils interviennent peut-être un peu plus souvent pour justement vérifier que tout se passe bien chez vous, pour vous ?
Normalement, ils font pour beaucoup de personnes. Moi, personnellement, j'ai mes enfants qui me contactent chaque week-end. Donc, voilà, sur ce sujet-là, ça va. Mais parfois, ils me conduisent à Auchan, les petits jeunes, Auchan, Carrefour. Ça fait une sortie. Quelquefois aussi, voir un spectacle. Et ça fait toujours des sorties en plus, on est moins isolés.
Vous pourriez plus vous en passer finalement aujourd'hui,
voilà,
si je vous entends bien.
Exactement.
Merci beaucoup.
J'espère que ça va durer encore longtemps.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Franciane Canlers, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes bénéficiaire justement des visites de courtoisie des jeunes du CCAS de Salomine. Merci. Et toujours pour parler du service civique, nous avons un nouvel invité en studio, Martial Debat, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes coordinateur au sein du secteur d'Arras pour l'association Culture et Liberté du Pas-de-Calais, association que nous avions déjà reçue il y a quelques semaines de cela d'ailleurs, et nous avions reçu deux de vos services civiques, Cécile Viguier et Tom Andrieux, que l'on salue. Alors, présentez-nous très rapidement l'association Culture et Liberté.
Alors, l'association Culture et Liberté est une association d'éducation populaire et également centre de formation agréé. Donc, nous sommes présents au point de vue du département avec un siège départemental qui se situe à Arras, une antenne que je représente qui se situe également à Arras et une antenne sur Lens.
Alors, pourquoi ?
Oui, allez-y. Oui, on a trois axes de développement par rapport à nos compétences. On a un axe plus dans l'accompagnement social lié au logement. On a un axe également autour de l'animation à vocation citoyenne et un axe du point de vue de la formation continue.
Alors pourquoi avoir choisi d'intégrer des services civiques au sein de votre association ?
Alors ça fait maintenant 4 ans que nous mettons en place ce dispositif avec les jeunes en service civique. Nous accompagnons chaque année 2 jeunes en service civique. Pourquoi ? Puisqu'on avait fait le constat auparavant au sein de l'antenne d'Arras que nous avions très peu de jeunes mobilisés et mobilisables de visu au sein de notre association. Et donc on s'est dit, mais qui d'autre mieux que les jeunes pour parler à des jeunes. Et on a justement mis en place ce dispositif pour que des jeunes puissent mobiliser d'autres jeunes afin de créer des actions pour les jeunes au sein du quartier.
Olivier Wallard, on a entendu dans le reportage et particulièrement dans l'interview d'Olivier Aubert, qui est le coordinateur des services civiques au sein de la ville de Salomines, on entend également dans les propos de Monsieur Debat que les jeunes ont du mal à se mobiliser pour ce service civique. Est-ce que vous avez une explication ?
Alors peut-être également, comme vous êtes tout à l'heure, par méconnaissance par rapport à ce fameux dispositif service civique. Pour exemple, également sur Béthune, nous avons mis en place également une structure, il y a Unicité qui s'est implantée sur le secteur de Béthune hier officiellement, il y avait l'inauguration hier, avec 24 jeunes qui sont donc mobilisés, pour reprendre votre expression, sur le secteur de Béthune. Et ces jeunes sont ravis, j'ai eu l'occasion de les rencontrer hier, notamment deux que j'accompagnais moi dans le cadre de l'IEJ avec Passeport Format. Ravis, contents, pourquoi ? Parce qu'il y a un lien intergénérationnel qui se met en place, le jeune se sent utile, il rend service. Et puis tout le monde est content, c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Et au moins l'espace de 6 mois, 7 mois, 8 mois, le jeune se remobilise et il reprend confiance en lui pour avancer. Le service civique pour moi c'est pas un travail, c'est vraiment une mission intergénérationnelle, mission d'intégration dans notre cadre. Et pour lui, c'est pour ce jeune, c'est juste tout simplement pour moi un levier, un tremplin dans sa vie professionnelle.
Quelles sont les missions des services civiques au sein de votre association justement, Martial Debat ?
Comme je le disais auparavant, la mission principale, c'est de mettre en place des actions en destination des jeunes du quartier. Par le biais d'un questionnaire qu'on a mené en amont, un questionnaire de recensement des besoins, et puis aussi de mobilisation partenariale au sein du quartier ouest d'Arras. Ça, c'est leur mission principale. Ensuite, en tant qu'association d'éducation populaire, on a aussi d'autres actions qui se mettent en place de fait, notamment des actions de citoyenneté ou des réalisations d'actions avec et en destination de bénévoles. Et les jeunes en service civique, on parlait d'intergénérationnalité, s'investissent également dans ce type d'action et ne sont pas cantonnés à la mission qui est quand même principale qui est là. Mais notre rôle, c'est aussi de leur faire ouvrir différentes portes, de mieux connaître l'environnement associatif, de les impliquer progressivement dans la vie locale, dans la vie associative.
Martial Debat, est-ce que c'est facile de renouveler les équipes si régulièrement par rapport à la cohésion d'un projet associatif comme le vôtre ?
Oui, je dirais que oui. Nous sommes une antenne assez familiale. On va dire ça dans le sens noble du terme. Le renouvellement ne pose pas trop de soucis, d'autant plus que les jeunes que nous avons accompagnés reviennent ponctuellement, régulièrement pour certains, viennent nous donner un coup de main sur des organisations de manifestations. Donc on a toujours ce lien entre bénévoles, salariés, jeunes en service civique, et on voit pas spécialement de conflits, de changements, de peur du changement. On est vraiment dans une dynamique collective d'éducation populaire.
Olivier Wallard, le service civique, d'après vos propos, et d'ailleurs d'après les propos de nombreux intervenants qui sollicitent des services civiques, c'est un tremplin, d'après eux. Mais est-ce que c'est pour un jeune une opportunité pour faire quelque chose qui l'intéresse, c'est-à-dire finalement passer 6 mois à se faire plaisir dans un domaine qui va vraiment le captiver, ou est-ce qu'il doit finalement s'en tenir à trouver une mission en adéquation parfaite avec son cursus scolaire? Parce que finalement, une embauche post-service civique au sein de la structure accueillante, c'est tout de même rarissime.
Alors oui, non. Rien à voir avec son cursus préalable. Le jeune, c'est plus encore une fois, on ne va pas lui demander de savoir faire, c'est de savoir être. C'est une sensibilisation à l'autre, à un certain altruisme également vers la personne, vouloir avancer. Je rappelle également que d'une manière générale, peut-être que mon collègue pourra le confirmer, les jeunes travaillent toujours en binôme, à deux, dans une équipe. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'en général, je me suis rendu compte que sur Béthune, Unicité avait mis en place des binômes avec deux personnes, on va dire, entre guillemets différentes, pour faire en sorte qu'une certaine de symbiose, que l'autre puisse prendre de l'un et vice versa. Donc dans ce sens là, parlons bien du fait que ça n'a rien à voir avec un savoir-faire ou une expérience ou un diplôme. C'est plus un savoir-être qui va prévaloir pour pouvoir avancer vers une mission, et donc au-delà de cette même mission de service civique, un tremplin pour également ce jeune se découvrir dans une mission. Moi j'ai des jeunes qui à la base peut-être un petit peu réticents à s'affranchir, à aller vers une personne âgée ou la lutte contre le gaspillage scolaire, et il s'est affranchi de cette mission et il s'y plaît. Je vois encore hier, je pense à deux jeunes que j'avais moi missionné en partenariat avec Unicité, ils s'éclatent dans cette mission parce qu'ils sont vraiment découverts, parce qu'ils sont actifs et ils se rendent utiles.
Alors là, je vais poser la question à tous les deux, hein, parce qu'on constate aussi des dérives dans ce dispositif, avec des structures accueillantes qui ne jouent pas forcément le jeu et confient un travail de salarié aux jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de ces dérives ?
Je pense qu'elles sont dommageables et c'est pas l'objectif premier du service civique. Hein, clairement, un jeune.
C'est ce qui se passe.
Oui, certainement. Un jeune est là pour apprendre. Il est dans un cadre d'apprentissage. On ne peut pas lui donner le même travail ou la même mission qu'une personne salariée sous contrat et qui est réglementée pour cela. On est là vraiment dans un parcours. Ce n'est pas un travail dissimulé. On est sur un petit coup de main à l'association aussi, hein, parce que l'association n'a peut-être pas les moyens autres pour mettre en place une petite action en destination des bénévoles. Mais on n'est pas dans le cadre justement d'un travail salarié, pas du tout.
Et rappelons également quand même, au préalable, qu'il y a quand même un cahier des charges qui est mis en place avec un tuteur nommé dans l'entité qui est censé accorder 20% de son temps pour accompagner ce jeune. Donc, à partir de là, il y a également un contrôle qui est mis en place par l'État, hein, par le département, par le département du Pas-de-Calais en ce qui nous concerne, avec la dame qui est là pour vraiment faire en sorte que tout se passe bien et pour la personne accueillie et pour le bénéficiaire au niveau du dispositif.
Alors, je vais encore enfoncer le clou du mauvais côté. Est-ce que le service civique ne participe pas à une précarité plus grande, un nivellement plus par le bas des salaires, des conditions de travail, de par l'extension de ces domaines d'application? Parce qu'il a été étendu, le service civique, quand
oui,
même.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense que ça n'a rien à voir. C'est deux domaines totalement différents. Totalement différents. On peut, le jeune, je vais peut-être faire une redite, mais le jeune est là, il arrive avec un œil neuf, sans peut-être compétences ou avec des compétences formelles mais aussi peut-être informelles, et elle n'a pas je vois pas le nivellement auquel ça procure.
Est-ce qu'on pourrait pas se dire finalement que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et qui permettrait de diminuer notamment les chiffres du chômage? C'est ça aussi qu'on pourrait peut-être évoqué.
Non, pas du tout. Il faut bien faire la part des choses également, comme disait mon collègue tout à l'heure. On fait bien le distinguo entre le travail, tandis que là, c'est vraiment une mission d'accompagnement, d'altruisme vers l'autre. C'est pas un travail, c'est vraiment une mission pour 6 mois. Le jeune en tire bénéfice parce qu'au-delà des 6 mois, il s'en sent quand même grandi, il reprend confiance en lui, il a été actif de son projet, et donc il se réinsère de part peut-être aussi service civique.
Alors certains jeunes qui ont été interviewés par certains de nos confrères, notamment le Nouvel Observateur, certains jeunes comme une femme titulaire d'un bac plus 5, hein, c'est à souligner, a témoigné dans le Nouvel Observateur en parlant du service civique comme, je cite, « machine Afrique pour les associations ». Et d'immenses ennuis, un constat très dur, mais le service civique ne nécessite-t-il pas quelques améliorations, notamment sur la définition des missions proposées aux jeunes, parce que ce n'est pas toujours forcément très clair, y compris pour les structures accueillantes.
la mission qu'on propose, elle doit être claire dès le départ. Et elle doit être acceptée par les deux parties. Donc si elle n'est pas claire, déjà, si c'est fou, il y a un loup quelque part, quoi, hein, comme on dit actuellement. Hein. Donc après, en termes d'ennui, le jeune, parfois, c'est vrai que sa mission la prend à bras le corps ou la prend progressivement. Donc il y a aussi toutes des habitudes de travail à mettre en place, une dynamique aussi à mettre en place. Et parfois, c'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu booster le jeune, l'accompagner. Mais en termes d'ennui, s'il y a ennui aussi également, c'est parce que la mission n'est pas bien ciblée dès le départ.
Mais puisqu'il n'est ni salarié ni bénévole, est-ce qu'on a autorité ?
On a une autorité naturelle, on va dire. On a une confiance avec son tuteur.
C'est ça aussi qui pose question quand même pour la structure.
Clairement, une structure n'a pas d'autorité sur le jeune en service civique. Hein, ça, c'est vraiment couché noir sur blanc dans les textes. Après, on travaille en toute intelligence. Une personne qui s'engage dans un service civique et que nous accueillons, il y a deux parties qui se mettent d'accord autour d'un planning, autour de la mission, autour. Après, ça se passe normalement classiquement.
Responsabilité humaine et un consensus entre les deux parties, tout simplement.
Olivier Allard, il nous reste 3 minutes avant la pause publicitaire et on continuera bien sûr à parler de responsabilisation des jeunes juste après cette pause publicitaire bien nécessaire. Le service civique, pour terminer sur ce sujet, en quoi peut-il être un plus pour un jeune dans sa future vie active ?
C'est le plus du départ. Le jeune commence dans sa vie, il a besoin de monter en compétence, il a besoin d'apprendre les règles de vie en communauté, en collectivité, apprendre des règles de vie avec des horaires, apprendre à suivre une strate peut-être un petit peu quand même hiérarchique, parce que même si le tuteur est à côté de lui, il va lui donner des consignes pour le bien-être et de l'association et de la personne et de lui dans son intégrité. Donc c'est des règles du bien vivre en communauté, en collectivité, qui pour moi sont les codes à venir du travail.
C'est à développer pour vous, le service civique, à généraliser peut-être ?
J'y crois à 300%. L'exemple le plus concret encore hier, 24 jeunes sur Béthune, vous savez combien de demandes pour Béthune, hein ? 1500.
Dites-nous. Ah oui.
1500 jeunes qui avaient postulé pour 24 postes, on va dire ça comme ça. Donc là, je fais un appel également à tout ce qui est monde associatif et autres, pour ceux qui veulent s'engager, non pas pour faire travailler un jeune au moindre coût, comme on l'a signalé ici, mais s'engager humainement pour un jeune, à lui faire confiance et à faire en sorte que ce jeune puisse grandir. Je fais appel également à tout ce qui est association ou autre, avec plaisir, pour prendre un jeune, pour, dans l'intérêt des deux sens, pouvoir faire évoluer ensemble, gratuitement, avec le jeune.
Et on précise quand même que les propos concernant justement les dérives, ce sont des constats qui ont été faits et pas forcément des propos que
nous partageons. Mais j'aime bien faire le méchant.
J'ai remarqué.
Eh bien, en tout cas, merci Martial Debat d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordinateur de secteur sur l'antenne d'Arras au sein de l'association Culture et Liberté Pas-de-Calais, qui est basée justement à Arras, association d'éducation populaire. Et Olivier Allard, eh bien, vous restez avec nous, bien sûr, pour aborder la dernière partie consacré à la responsabilisation des jeunes. On recevra une junior association, l'association Double J, basée à Arras.
Noir et blanc. De n'importe quelle couleur,
La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend des latitudes, ça dépend de ton attitude. Ces 100 ans de solitude